Bonsoir, au lendemain d'une chute de 4% à Wall Street, hein, le gadin en Asie tôt ce mardi matin, à Sydney, à Hong Kong, à Tokyo, à Shanghai également, et puis en Europe hein, aussi ce mardi après-midi, Paris, Londres, Francfort. Oui, un petit peu partout, donc les principaux indices sont maintenant plus qu'effacés, les gains de janvier. Alors on ne va pas encore parler de crack, bien entendu, après un an de hausse à New York, hein, du jamais vu, c'était. Mais une nouvelle ère n'est-elle pas en train de s'ouvrir sur fond de taux qui remontent, de risques d'inflation, de banques centrales qui ne perfusent plus l'économie? De quoi désarçonner évidemment ceux qui ont vécu sur de l'argent facile pendant toutes ces années. Oui, cette correction boursière finalement, est-ce qu'elle n'était pas souhaitable hein, pour aborder 2018 avec de nouvelles habitudes à prendre? Est-ce que cette chute des marchés, c'est un trou d'air salutaire? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, pour tout savoir, tout comprendre hein, sur ces journées que l'on vit en direct sur BFM Business, à la télé, à la radio. Et vous avez eu raison, évidemment, de nous choisir pour bien comprendre, tout savoir, évidemment. Jean-Michel Six nous accompagne, il est chef économiste de l'agence de notation S&P Global Rating. Avec nous également, celui qui connaît par cœur l'histoire politique et économique et l'actualité récente aussi aux États-Unis, Jean-Éric Brana, qui est maître de conférence à l'Université d'Assas, auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. Philippe Tibi, qui est enseignant en Polytechnique, qui a créé son école pour diriger entreprise Pergamon Campus, qui a dirigé l'association des marchés financiers, il connaît très très bien. On attend dans une poignée de secondes, c'est la neige, hein, vous savez, sur la région parisienne. Jean-Nel Vieille, stratégiste marché chez HPC. Et puis on va rejoindre tout de suite, c'est Grégory Volokhin depuis New York. Grégory Volokhin, président de Mescard Financial Services. Grégory, donc, au moment où on se parle, hein, alors peut-être vous nous suivez pendant la rediff de soirée ou de nuit, hein, sur BFM Business, mais là il est 19h11 ce mardi soir. Cette volatilité dont on parle énormément, bah, vous continuez de la suivre, de la vivre à New York avec une ouverture dans le rouge, puis le vert, puis le rouge, puis le vert. Au moment où on se parle, voilà, toute petite progression du Dow Jones. Racontez-nous.
Je vais vous dire, en fait, cette petite correction qu'on a eue, vous posiez la question, est-elle salutaire? Et je dirais oui, mais peut-être pour une raison que vous attendez pas. Elle est salutaire parce que ça me fait penser toujours à cette parole de Warren Buffett, c'est quand la marée se retire qu'on voit qui nage tout nu. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la marée, qui était en fait la volatilité, et une volatilité qui était toujours sans bouger maintenant depuis des années, on a vu qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de monde actif dans la finance, qui avait pris des paris, qui avait pris le pari que cette volatilité continuerait à ne pas bouger. Des grandes banques avaient émis des trackers, des certificats, des produits dérivés. Beaucoup de gens avaient fait le même pari. Et c'est le dénouement, je dirais, de ces paris qui en fait a vraiment fait baisser fortement les marchés, parce que autrement avoir 4 ou 5% de baisse, je dirais, après d'abord la hausse du mois de janvier qui était très rapide, après l'année dernière où le Dow Jones par exemple était en hausse de 25%, ça serait tout juste anecdotique. Mais je dirais c'est pas anecdotique parce qu'on a appris que une fois de plus dans la finance, il y a, je dirais, ces baleines qui sont cachées et ça c'est, je dirais, le risque. Et en fait, si la volatilité continue encore un peu aujourd'hui sur les marchés, c'est parce qu'on a toujours un peu de peine à savoir le risque justement de ces produits qui avaient été émis en pariant sur l'absence de volatilité.
C'est quoi ces baleines dont vous nous parlez, ces baleines cachées, Grégory Volokhin? Parce que j'ai l'impression que là, en 2018, on n'aurait pas tiré toutes les leçons de crise de ces 10 dernières années. Racontez-nous, soyez précis, s'il vous plaît.
Écoutez, alors, c'est jamais bien de faire exactement une comparaison, puisque comparaison n'est pas raison, on l'a déjà dit. Vous aviez des produits extrêmement à la mode pour investir dans les années 2007, vous en souvenez, c'était les subprimes. C'était quoi le subprime? C'était acheter un produit dérivé avec un sous-jacent qui était des hypothèques, avec l'idée que de toute façon, puisque le prix des maisons continuait à monter, les gens ne seraient jamais en difficulté pour rembourser leurs dettes. On a vu ce que ça a donné. Il y a eu l'explosion de ces produits qui a d'abord ruiné beaucoup de banques et beaucoup de gens. On n'est pas du tout dans la même situation. Sauf que, après quelques années où les banques ne faisaient plus grand-chose, elles ont eu besoin d'émettre des produits financiers parce qu'il faut quand même gagner sa vie quand on est à Wall Street. Et parmi une tendance qui était très très nette, une sorte de momentum qu'on pourrait très très bien décrire, c'était l'absence de volatilité dans le marché. Donc, en faisant un pari sur cette absence de volatilité et en disant à un investisseur, vous achetez ce tracker, cet ETF, vous achetez ce fonds, et si la volatilité ne bouge pas, vous allez gagner 1 ou 2% par mois. Mais c'est toujours ça, hein, c'est bien 1 ou 2% par mois. Ça a entraîné beaucoup de monde derrière ce pari. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, cet automne, les hedge funds, qui sont des professionnels de la finance en général, avaient beaucoup diminué ces paris. Et je dirais ça, c'est très très intéressant, mais quand même assez grave, c'est que quand vous voyez ces fameuses notes de Crédit Suisse qui ont explosé hier, ceux qui restaient détenteurs, à part Crédit Suisse, c'était beaucoup, beaucoup de particuliers. Donc, une fois de plus, je dirais, si c'est salutaire d'avoir une baisse, c'est parce que ça montre que les marchés, d'abord, ils montent pas au ciel, ils montent pas tout droit, mais qu'il y a aussi des risques cachés. Et je dirais, actuellement, le risque caché, à mes yeux, du marché, c'est beaucoup plus des produits mal adaptés et dangereux qu'une flambée de l'inflation. L'inflation, si elle vient, c'est naturel. On la souhaite depuis tellement longtemps. Combien de fois on a dit, il faudra qu'il y ait de l'inflation dans l'économie, les salaires augmentent, etc. Pourquoi est-ce que vendredi et lundi, tout d'un coup, l'inflation serait devenue si négative et si dangereuse? Donc, un peu, l'analyse qu'on peut faire, c'est baleine, comme je disais. C'est des produits financiers mal adaptés, trop risqués, mais qui bénéficient en général d'une grande popularité parce que, comme on dit en anglais, trend is your friend.
Bon, on va y revenir tout à l'heure, Grégory Volokhin, les raisons donc de cette baisse des marchés. Jean-Michel Six, on avait un petit peu oublié donc la volatilité, l'année 2018 qui avait bien commencé, les indices enchaînant record sur record, New York, 14 mois consécutifs de hausse, donc depuis l'élection du président Donald Trump. Ça faisait longtemps qu'on a envoyé plus de baisse, on avait perdu un petit peu l'habitude quelque part.
Alors, je pense que il y a eu pendant plus d'un an une déconnexion totale entre le marché des actions américains qui a explosé, comme vous le dites, et le marché obligataire. Et là, il y avait une contradiction flagrante et qui était constatée chaque jour entre deux messages. Le message de la bourse qui disait l'économie va très bien, en fait on monte au ciel, etc. Et le marché obligataire qui disait à peu près l'inverse, puisque les taux longs, les taux à 10 ans par exemple, ne montaient absolument pas. Je vous rappelle que la Réserve fédérale a quand même déjà augmenté ses taux 5 fois, hein, dans la dernière année et demie. Et malgré ces 5 hausses de taux, les taux longs continuaient à rester à peu près là où ils étaient. Ce qui, normalement, veut dire, nous attendons une récession. Donc vous avez deux messages totalement contradictoires. Il fallait qu'à un moment donné, ces deux messages se réconcilient. Ils se sont réconciliés sous la forme d'un début de hausse des taux longs sur le marché obligataire, hausse naturelle, justifiée, normale. Et par rapport à ça, les chiffres de l'inflation, effectivement, ont déclenché un petit peu cette hausse, puisque on a vu des hausses de salaire relativement importantes en début d'année, 3% sur l'année, avec 18 États américains qui ont augmenté le salaire minimum en janvier. Donc vous avez un certain nombre de signaux au demeurant normaux, encore une fois. Rien d'entre ça n'est anormal. Ce qui est anormal, c'est qu'on ait attendu autant avant que ce réalignement se fasse entre les différents marchés.
Et pour quelle raison, à votre avis, qu'est-ce qui a déclenché tout d'un coup cette chute des marchés? Il a fallu attendre quoi? Un prétexte? C'était vendredi, l'annonce des chiffres de l'emploi, l'annonce qu'en effet qu'il y avait des hausses de salaire dans un certain nombre d'États?
Alors, c'est un ensemble de facteurs, mais je pense qu'incontestablement, les chiffres de l'inflation, les chiffres des salaires montrent qu'effectivement, aujourd'hui, l'économie américaine, qui tourne à plein pot depuis déjà plusieurs trimestres, qui est déjà à fond, et qui aujourd'hui se voit injecter un carburant supplémentaire sous la forme de baisse d'impôts par l'administration
Trump. La réforme fiscale.
Donc, c'est comme si vous boostiez une voiture qui est déjà à fond sur l'autoroute. le résultat en termes économiques, c'est plus d'inflation. Il n'y a que comme ça que vous pouvez continuer. C'est-à-dire, le moteur chauffe et chauffe et chauffe.
La raison principale de l'inflation, pardon, Jean-Michel, je vous pose des tas de questions ce soir, c'est le principe des décodeurs de l'écho. On a dit la hausse des salaires et génère de l'inflation. Vrai, faux ou pas?
Oui, elle va générer de l'inflation. Elle va générer
mais
de l'inflation.
Est-ce que c'est la raison unique, principale ou...
Alors, d'autre part, vous avez des tensions. C'est-à-dire que quand je parle de ce moteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, quand vous avez un moteur qui chauffe, eh bien, ça se traduit concrètement par le fait que vous êtes obligé d'augmenter vos prix parce que vous êtes en pleine capacité de production. Vous pouvez pas produire plus. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un ajustement par les prix. Ça, c'est la logique du marché. Hein, quand je peux pas vous vendre plus que X, eh ben, à ce moment-là, je vais augmenter mon prix parce que de toute façon, vous allez tout m'acheter puisque je suis à pleine capacité. Donc, c'est ça qui crée petit à petit de l'inflation. Et les marchés obligataires, de par leur nature, leur fonction, sont en quelque sorte les gendarmes sur le plan de l'inflation. Ils surveillent, comme le lait sur le feu, les tendances en matière d'inflation. Et dès qu'effectivement, on commence à voir des signes plus tangibles d'une reprise de l'inflation, ces marchés commencent à réagir. Mais encore une fois, ce qui est tout à fait frappant et tout à fait exceptionnel dans cette conjoncture, c'est qu'ils aient mis tant de temps à réagir. Parce que dans le même temps, vous aviez effectivement beaucoup d'entrées de capitaux en provenance des pays émergents en particulier, qui font que la demande pour les taux, pour les produits longs américains était également très soutenue. Donc il y a eu des facteurs techniques qu'on expliquait un peu pourquoi on a mis tant de temps. Mais c'est bienvenu. Et dernière chose que je voudrais rappeler comme ça dans l'intro, c'est, bien entendu, on a déjà connu plus de 22 périodes de grosses baisses à Wall Street. Moi, il se trouve que je vivais aux États-Unis en 1987 au moment du grand crack de Wall Street, où là, on a fait moins 22% en une journée. Et ce qui est amusant, enfin relativement parlant, c'est que dans les deux cas, on avait un nouveau responsable de la Réserve fédérale qui venait d'arriver. Voilà. Là, c'est Monsieur Powell qui est arrivé cette semaine. Voilà. Puis, et l'autre fois, c'était un dénommé Greenspan.
Dites donc, on s'en souvient bien. Philippe Tibi, est-ce qu'on n'avait pas dit que ça arriverait tout simplement? Alors, on verra évidemment les raisons et on a suivi les explications passionnantes de Grégory Volokhin à New York, de Jean-Michel Six de S&P Global Ratings. Est-ce qu'on doit être surpris? Ça pouvait pas monter à l'infini, cette histoire.
Vous savez, il y a toujours des gens qui vous disent que ça va arriver. Donc, je crois que c'est...
On avait parlé ici même, on s'était posé des questions. Voilà, ça faisait partie des réserves de 2018.
Dans les marchés, ce qui est clé, c'est le timing. Donc, on ne sait pas. Et effectivement, il y a eu une nouvelle qui, à mon avis, n'est pas très importante, qui est la nouvelle sur les salaires, qui a déclenché ce mouvement de marché.
Un prétexte à vos yeux ou pas?
Je pense que c'est un prétexte parce que les salaires, l'augmentation des salaires reste basse. On est à 2,9%. C'est pas une augmentation de salaire. Quand vous regardez la hausse des salaires des mois précédents, on n'est pas dans une accélération. Simplement, ce qui se passe, c'est que la Réserve fédérale, donc qui fixe les taux d'intérêt à court terme, est très sensible à la situation de l'emploi et à la situation des salaires. Donc on sait que c'est un signal qui a été maintes fois rappelé par Madame Yellen. C'est pour ça que la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, a beaucoup atermoyé avant de monter les taux. Jean-Michel a rappelé qu'elle les a montés de façon fréquente, mais ça fait depuis 2013, on attend un retour à la normale aux États-Unis. Donc si vous voulez, elle a été très lente parce que on ne comprend pas bien le marché du travail aux États-Unis. On comprend pas bien qu'on ait un chômage qui soit aussi faible avec des salaires qui ne montent pas. Et je pense qu'une des raisons à cela, c'est que en fait l'économie américaine crée beaucoup d'emplois, mais elle crée énormément d'emplois précaires. C'est-à-dire il y a plus de 14 millions d'emplois qui ont été créés depuis le début de la crise. Ce sont des emplois précaires. C'est-à-dire le 9-to-5 job, c'est-à-dire le job normal dans lequel vous avez une visibilité, ce n'est pas le type de job qui sont créés aujourd'hui. Vous avez beaucoup et ça n'est pas non plus les Uber et compagnie qui en fait sont relativement faible. C'est les contracteurs, c'est-à-dire les gens qui ont des équivalents des CDD, c'est des gens qui viennent travailler à la demande, c'est les gens qui ont des multiples petits emplois ou des emplois à temps partiel. Donc on voit ça en Europe aussi, hein. C'est pas un phénomène spécifiquement américain. Donc ça, c'est d'une part des jobs qui sont précaires, d'autre part une baisse de la syndicalisation qui fait que le pouvoir de négociation des employés est plus faible. Donc je crois pas personnellement que la hausse des salaires était décisive. Je crois qu'elle est décisive au second ordre, parce qu'elle est très attendue. Le marché pense que la Banque centrale va prendre des décisions en fonction de ce domaine. Comme l'a dit Jean-Michel, il y a un nouveau, donc il est bizuté, entre guillemets. On lui demande de faire ses preuves.
Ça marche comme ça.
On lui demande de faire ses preuves immédiatement.
Autant, il n'a pas fait les arts et métiers. Hein.
Ouais, quand on arrive.
Il est bizuté, il n'y a pas de volonté. En tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a une incertitude. Vous savez comment le précédent conseil fonctionnait sous l'autorité de James Lien. Cette fois, on ne sait pas. On va voir. Mais je crois que, comme l'a dit Jean-Michel, le vrai sujet, c'est la hausse des taux d'intérêt à long terme, parce que ils n'étaient pas à leur niveau d'équilibre. Vous savez, en première année d'économie, on vous apprend que normalement, un taux d'intérêt à long terme, il est égal à la croissance nominale. On n'est pas du tout là depuis très longtemps. Donc, effectivement, il y a une question de timing. Pourquoi ça, on n'a pas vu ça depuis longtemps? Mais je voudrais aussi rappeler qu'en Europe, c'est pire. C'est-à-dire que les taux d'intérêt à long terme, ils sont en Allemagne à 1%, à 2% en Italie. La croissance nominale en Europe, elle est de l'ordre de 4%. Donc, si vous voulez, ce sujet qui fait que les marchés se sont habitués à ce qu'en fait les banques centrales administrent les taux d'intérêt. À court terme, c'est leur job. À long terme, c'est normalement le marché qui dit le prix. Là, en fait, les banques centrales sont tellement intervenues sur les marchés, ont tellement donné des guidance, c'est-à-dire ont tellement guidé le marché qu'on se retrouve avec des investisseurs qui, d'une certaine façon, aujourd'hui,
ils sont perdus.
Ils sont pas forcément perdus, mais en tout cas,
ils perdent leurs repères.
Ils ont perdu des repères qui étaient bien installés. Ouais. C'était un marché assez facile. Si on est cynique,
avec de l'argent.
C'est-à-dire l'indice américain a été multiplié par 4 depuis presque 4 depuis 2009. Donc ça allait dans un seul sens. C'est un peu plus compliqué. Il y a des risées. Et là, je crois que la question qui se pose, c'est pas celle de la croissance. On aura une année de croissance. C'est de la sortie d'une politique accommodante. Face à des investisseurs qui ont perdu l'habitude de fixer le rapport rendement-risque.
Trouver de nouveaux repères après 10 ans, en effet, de période, voilà, où tout était finalement quelque part.
C'était comme ça avant. En 2007, c'était ça. Hein.
Un mot, Jean-Michel, et puis Jean-Branard.
Oui. Bah juste pour renforcer le point de Philippe, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis ne se passe pas en Europe, tout au moins en zone euro, parce que la grande différence, c'est que la Banque Centrale Européenne continue d'intervenir sur les marchés, continue d'approvisionner les marchés en liquidité, 30 milliards par mois, alors que la Réserve fédérale a arrêté depuis déjà un certain temps et a annoncé qu'elle commençait même à réduire son bilan, donc à se débarrasser d'un certain nombre de titres qu'elle portait. Les taux allemands, effectivement, 0,7, ils bougent relativement peu par rapport à ce qu'on a vu depuis 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a derrière encore la lance à incendie, en quelque sorte, de la BCE qui continue.
Jusqu'en septembre au moins, voilà.
Voilà, jusqu'en septembre, voire plus si nécessaire.
Si nécessaire, voilà. Jean-Éric Brana, spécialiste de la politique américaine.
Je voulais rajouter un petit point, mais à propos de ce qu'avait dit Jean-Michel, mais il le sait trop bien quand il parlait de hausse de salaire en expliquant que c'était une partie de la solution. Alors c'est une toute petite partie parce que les salaires minimums aux États-Unis sont à un niveau plancher. Le salaire fédéral est à 7,25, on le rappelle, et aujourd'hui on est à des salaires minimums qui sont entre 11 et 15 suivant les États ou suivant les entreprises, parce qu'il n'y a pas que les États qui ont monté les salaires minimums, mais également les entreprises ou les secteurs qui ont la possibilité de le faire aux États-Unis, voire les villes, puisque dans toutes les grandes villes quasiment américaines, on est passé à 15 dollars, mais d'ici 3 ans ou 5 ans, parce que c'est pas avec effet immédiat. Mais ce que je voulais surtout rajouter, c'est que ces salaires minimums ne concernent que très peu de gens, en réalité, aux États-Unis, puisque le salaire minimum ne touche environ que 5% de la population. On n'est pas du tout dans la situation de la France, où beaucoup de gens se retrouvent au salaire minimum, et donc l'influence, évidemment, va se voir tout de suite. Le salaire moyen aux États-Unis aujourd'hui est plus proche de 26 dollars de l'heure que des 7,25 dollars fédéraux. Donc en réalité, c'est une toute petite frange de la société qui est touchée. Donc comme explication, c'est quand même très limité par rapport à l'ensemble. Il va falloir chercher ailleurs, aller creuser un petit peu plus pour compléter, comme vous le disiez très justement d'ailleurs.
Juste avant qu'on retrouve Grégory Volokhin, Donald Trump, la semaine dernière, dans son discours sur l'état de l'Union, il avait souligné que la bourse battait record sur record. Il en a joué, justement, de cette hausse de Wall Street depuis qu'il a été élu. Je le disais, 14 mois de hausse consécutive, Jean-Éric Brana. Il met son crédit, ça?
Il l'a pas fait que dans les discours de l'Union.
La dernière grosse intervention du président.
Non, mais la dernière grosse, c'était hier soir. Hein. Il a encore refait hier soir. Il était en meeting dans l'Ohio où il lançait la campagne de 2018. Il en a remis une grosse couche en expliquant que c'était grâce à lui que l'économie allait si bien. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, évidemment, les démocrates se glosent en disant « Ouais, bon, si vous avez dit que c'était grâce à vous que ça montait, quand ça descend, il faut aussi expliquer que c'est à cause de vous. »
Ah, ils sont intervenus, les démocrates, ou
ah
quoi?
Oui, ça a commencé dès aujourd'hui. Et sur tous les plateaux de télé, tous les spécialistes avec un label démocrate, aujourd'hui, s'amusaient comme des fous, bien évidemment.
La Maison-Blanche est intervenue la nuit dernière. Elle a cherché à atténuer les inquiétudes. Elle dit « les fondamentaux de l'économie américaine sont exceptionnellement forts. » Et Donald Trump est concentré sur sa tâche.
Et il a beaucoup de chance, puisque dès ce soir, c'est à nouveau corrigé. Donc, il pourra dire, comme on le dit sur le plateau, écoutez, c'était une correction, voire salutaire, comme vous l'avez mis en titre. Et donc, on circule, il n'y a rien à voir. On continue, tout va bien aux États-Unis.
Ah oui, Grégory Volokhin, je cite Jean-Laurent Bonnafé, le directeur général de BNP Paribas, ce matin, au moment de la présentation de ses résultats, qui expliquait, estimer que la baisse des marchés est une correction, mais qu'il ne s'agit pas d'un vent de panique. Vous nous le confirmez, c'est fini, il n'y a pas de panique à New York.
Oui, on peut confirmer qu'il n'y a pas eu de panique. Et ça se voyait, en fait, pour une raison, c'est que le plus gros de la baisse s'est fait sur la dernière heure de séance hier à New York. Et on sait très très bien que sur la dernière heure de séance, c'est pas des investisseurs particuliers comme vous et moi, c'est pas des gérants de portefeuille qui agissent, mais c'est beaucoup plus des programmes d'ordinateurs qui sont là pour ajuster les portefeuilles, pour ajuster les ETF, les trackers. Donc c'est beaucoup plus un phénomène extrêmement technique de volume que un phénomène où tout le monde veut vendre parce qu'il a eu peur. Donc oui, Bonnafé a raison à ce niveau-là. Je dirais pas qu'il y a de la panique. Par contre, il y a eu des forts ajustements à la fois de portefeuilles, de trackers, d'ETF. Et c'est aujourd'hui qu'on verra, et je pense que ça va être très intéressant de voir la dernière heure de trading à New York, quel va être en fait le verdict qu'on aura. Si ça s'est bien stabilisé sur la dernière heure, je pense que le plus gros de la tempête sera passé, en tout cas à court terme. Par contre, si on repart à la baisse, là, il faudra faire attention les jours prochains.
Oui, alors quand même, relativisons une nouvelle fois, on l'a dit, tout au long de la journée, sur BFM Business, Grégory Volokhin, on part de haut quand même. Quand Donald Trump a été élu, je crois qu'on était aux environs quoi de 18 000, c'est ça, oui, 18 000. Aujourd'hui, bon, voilà, on est à 24 375 au moment où on se parle. Bon, il y a eu un record de 26 400, donc il y a une quinzaine de jours. On part de haut quand même. Pourquoi est-ce qu'on est allé si vite dans la baisse quelque part? Pourquoi cette accélération, Grégory Volokhin? On a une explication 24 heures après ou pas?
Oui, je pense qu'il y a plusieurs explications. En fait, c'est un problème de rapidité et de vélocité. Il y avait eu deux phénomènes très très rapides, en fait. Les taux s'étaient tendus assez brutalement aux États-Unis et le dollar avait baissé brutalement. Et quand deux phénomènes aussi importants arrivent ensemble, que les marchés financiers s'ajustent, c'est assez naturel qu'ils s'ajustent rapidement. Il faut savoir, en fait, c'est ce qu'on dit, que le marché, quand il monte, il prend un escalier. Par contre, quand il descend, il prend l'ascenseur. Et c'est une très jolie image. Par exemple, le mois de janvier, on est monté tranquillement tous les jours. Et tout ce qu'on avait gagné en un mois, on l'a reperdu en trois jours. Ce n'est pas non plus quelque chose, je dirais, de particulièrement exceptionnel. Et aussi, pour vous dire, si vous faisiez un graphique du S&P ou du Dow Jones sur 20 ou 30 ans, la séance de hier ou la séance de vendredi, vous la verriez même pas, en fait. Parce que en pourcentage, ça n'a vraiment pas interrompu, disons, ce mouvement haussier. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est salutaire. Ça a été une petite baisse, mais dans un mouvement qui continue à être un mouvement, en principe, haussier, grâce aux fondamentaux de l'économie.
Jean-Michel Sixt, chef économiste pour l'Europe de S&P Global Rating.
Non, mais juste pour ajouter qu'effectivement, il y a des phénomènes d'amplification qui sont dus simplement à l'utilisation d'un certain nombre d'algorithmes et d'ordinateurs qui passent en fait des ordres à partir du moment où on atteint un certain seuil de baisse. Donc ça accentue la baisse. Il y a des déclencheurs, si vous voulez, au fur et à mesure qu'on baisse. C'est un peu comme si vous passiez un ordre en disant si tel titre baisse de 10%, vous vendez. OK ? Donc il baisse de 10%. Donc vous vendez pour moi, mais il y a un autre gars derrière qui à 12% aussi va vendre, etc. Et donc ça fait un peu un effet boule de neige. Ça, on a déjà vu ça dans des précédentes périodes. Maintenant, il y a des mécanismes qui sont en place pour bloquer justement ces baisses trop fortes et éviter que justement on se retrouve comme en 87 avec moins 22% en une journée. Mais il y a quand même encore des phénomènes de mini.
Ça a fonctionné tous ces.
Oui, je pense que dans une certaine mesure ça fonctionne. Oui.
Philippe Tibi avec nous également.
Je crois qu'il y a
Bergamo de Campus.
Depuis que les marchés sont électroniques et bon et même avant parce qu'on l'a vu en 29, il y a toujours ces phénomènes de panique, enfin c'est les esprits animaux dont parlait Keynes, ce qui fait que les marchés évoluent au gré de la cupidité et de la peur. Enfin, c'est dans le cas des dictionnaires, des citations ou des expressions de marché, on peut citer ça. Donc, je crois que c'est pas le plus important. C'est important pour les spéculateurs, pour ceux qui ont emprunté pour acheter des titres et qui là se retrouvent ruinés. C'est tant mieux pour eux, mais ça n'a pas d'importance. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir les idées claires ou d'essayer d'avoir les idées claires sur les taux d'intérêt, la croissance et la productivité. Parce que la seule richesse du monde, enfin la richesse du monde vient de la productivité. La productivité est en panne aux États-Unis comme ailleurs dans le monde. Donc on a des profits qui ont soutenu la hausse de la bourse. C'est pas une hausse surnaturelle, hein, celle qu'on a vécue depuis 4 ans. C'est une hausse des profits. Une hausse des profits qui s'est nourrie des oligopoles aux États-Unis. Il y a moins de concurrence aux États-Unis, donc les profits augmentent pour les leaders, et les leaders sont les grandes capitalisations. On le voit sur les
géants du net, hein.
les résultats d'Amazon, de Google, d'Apple même s'ils ont déçu, sont
dans les trimestriels se comptent en dizaines de milliards de dollars.
Donc ça n'arrive rien au mérite de ces firmes, mais il y a moins de concurrence aux États-Unis, et donc il faut et puis sur le fait que les salaires sont restés bloqués. Donc la part des salaires dans la formation de la valeur ajoutée a baissé aux États-Unis comme dans d'autres pays. Donc tout ça a fabriqué les profits qui ont sous-tendu la hausse de la bourse. Donc je pense que ce qu'il faut regarder, les interrogations qu'on devrait se poser ou qu'on se pose les investisseurs, c'est est-ce que on est à la veille d'un changement. Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons qui peuvent laisser penser qu'il y a un nouveau régime qui se prépare, ou bien est-ce que on va continuer sur la même ligne. Et je crois que c'est ça qui va déterminer l'évolution des marchés, avec des périodes d'euphorie peut-être ou des périodes de stress comme on a vu hier.
Juste, puisque vous allez nous quitter bientôt, Grégory Volokhin, pour répondre à la question de Philippe Tibi, est-ce qu'on est à la veille d'un changement 2018, nouvelles habitudes, nouvelle ère?
Je dirais, il a absolument raison, et en fait le changement, il est, je dirais, partout. Il y a le changement dans le tissu social au niveau du travail, ça s'exprime nettement aux États-Unis justement par le fait que la productivité n'est pas au rendez-vous. Il y a le changement au niveau de la consommation avec l'internet. Il y a le changement au niveau, je dirais, des relations entre les États-Unis et le reste du monde. Donc c'est très difficile de pas imaginer que 2018 va être une année charnière. Et cette année charnière, c'est vrai que elle commence extrêmement bien. Par contre, elle risque d'amener justement des journées comme on a eu vendredi, comme on a eu hier. Pour une raison, c'est que, en fait, les investisseurs, ils aiment l'espoir, mais ils aiment pas le changement quand ils l'ont pas prévu. Et c'est ça, je dirais, le gros risque cette année, c'est qu'il y a énormément de changements fondamentaux et structurels qui sont en train d'arriver sous nos yeux et qu'on n'a pas encore forcément mesuré leur importance et l'effet qu'elles auront, non seulement sur les marchés, mais même sur notre vie quotidienne et sur des catégories entières de travail ou d'entreprise.
Donc ce que vous dites, Grégory Volokhin, c'est des journées comme celles qu'on vit depuis ce lundi, aujourd'hui mardi, alors bon, avec plus ou moins de heures et de bonheur, donc à New York, c'est très très variable. Il y en aura d'autres, faut pas s'inquiéter surtout, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de crack en vue.
Écoutez, je dirais que s'il y a un crack, et ça peut arriver évidemment, s'il y a un crack, ça sera beaucoup plus un effet technique de ce qui se passe et de comment les marchés financiers sont actuellement structurés, que tout d'un coup un crack, parce qu'on verra que les salaires augmentent ou que l'inflation passe de 2,6 à 2,7% annuel. Donc je dirais, s'il y a un crack, c'est qu'il y aura une maladie ou une gangrène dans le système financier lui-même des marchés, mais pour le moment ce n'est pas l'économie qu'on a ici, ni en Europe, ni globalement allemand. Et ce n'est pas ni le niveau des taux d'intérêt, ni l'échange, ni le niveau du commerce mondial qui devrait nous indiquer un crack qui arrive. Donc c'est un peu le black swan. Si on a un crack, c'est parce qu'il viendra de quelque chose qu'on n'a pas pu ni quantifier ni prévoir.
Ouais, juste un mot, l'économie qui se porte bien, l'économie américaine, une centaine de mois d'expansion économique d'affilée du jamais vu depuis 150 ans, Jean-Éric Brana. Tout à l'heure, Jean-Philippe Thibault disait, il faut avoir les idées claires dans cette période. Est-ce qu'à la Maison-Blanche, on a véritablement les idées claires sur la politique économique à mener? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs visions, plusieurs écoles?
Alors, ça a été la grande question pendant toute la campagne, parce qu'il ne vous a pas échappé que Donald Trump a beaucoup capitalisé sur son aura d'homme providentiel l'économie, en parlant du fait qu'il était milliardaire, mais en même temps, il n'annonçait pas un plan économique structuré et détaillé, et c'est vrai que les éminents économistes étaient très embêtés.
Donc ça, c'était il y a 14 mois, quelque part.
Oui,
voilà.
Mais ça n'a pas beaucoup changé.
Ça n'a pas changé.
Il a eu beau s'entourer, c'est vrai, d'hommes du métier, on va dire, qui viennent principalement de Goldman Sachs, et c'est vrai qu'autour de lui, ils sont quand même très nombreux. On dit qu'il y a une opposition entre le ministre du Trésor et le ministre du Commerce, qui ne sont pas tout à fait d'accord sur la ligne à suivre. Celle qui l'emporte, c'est celle que défend Donald Trump lui-même, en expliquant qu'avec ses baisses d'impôts, il veut rebooster l'économie, qui va amener une croissance tellement extraordinaire. Il donne même des chiffres, 4,5, donc c'est des chiffres très ambitieux, que pour l'instant, beaucoup d'économistes ne cautionnent pas et expliquent que ça ne peut pas arriver.
Et comme Jean-Michel, peut-être, je ne sais pas.
Oui, non, c'est complètement irréaliste.
Bon, d'accord,
oui,
c'est bien de l'entendre.
Et pour lui, c'est la clé de voûte du système, et l'ensemble doit tellement avancer rapidement, sans cette croissance forte, avec le déficit qu'il a engendré, il y a un risque. Alors, je ne sais pas s'il y a un risque de crack, là, ils sont beaucoup plus spécialistes que moi, Philippe et Jean-Michel, pour en parler.
Et il y a Jean-Michel qui est arrivé, qui est sorti de son...
Mais il y a de quoi s'inquiéter, en tout cas, c'est ce que beaucoup annoncent.
Bon, allez, on continue aux uns. Merci, Grégory Volokhin, à très bientôt sur BFM Business, président de Mescard Financial Services. On continue avec nos décodeurs de l'écho, avec l'arrivée heureuse de Jean-Noël Vieille. Voilà, il se dépoussière, on va y sortir un petit peu la neige, et puis il arrive. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, on continue évidemment à l'issue de ces journées un petit peu erratiques, et surtout au lendemain de la chute à Wall Street, 4%. Alors on en est loin ce mardi soir, mais enfin entre-temps l'Asie a dégringolé, le Japon, la Chine, Hong Kong, Sydney, Paris moins 2,3%, Londres moins 2,6%, Francfort moins 2,2%, Madrid moins 2,5%. Bon, Jean-Noël Vieille, rescapé climatique ce soir avec nous, stratégiste marché chez HPC. On le disait quand même, c'est un paradoxe quand même, une chute dans un climat de bonne santé économique. Comment vous avez vécu ces journées? Je ne parle pas du fait que vous venez de marcher sur le périphérique, ce qui est parfaitement interdit par la législation en vigueur. Je le rappelle. Allez-y, Jean-Noël.
Non, j'ai écouté d'ailleurs dans la voiture ce que vous disiez, donc pour aller peut-être plus apporter quelque chose de supplémentaire. Je crois qu'effectivement, ce qui est un peu surprenant, c'est que ce qui s'est passé, on s'y attendait, c'est-à-dire la hausse de l'inflation, des salaires, bon, peut-être que le chiffre était un peu plus haut que ce qui était attendu, certes, mais en tout cas, la hausse des taux, tout le monde sait, le marché l'a anticipé, qu'on aurait 3 hausses des taux, en tout cas au niveau des États-Unis, voire 4. Donc ce qui peut surprendre, c'est pourquoi on a, à ce point, fait effectivement des baisses de 5 à 6%. Mais attention, une des raisons aussi est dans la réponse. Faut pas non plus trop stresser. On va rester avec un début d'année. On va être à moins 2. Je vous rappelle que l'année dernière, on a fini à fin février, on devait être à moins 15. Donc soyons un peu réalistes par rapport à ce qui se passe. On est monté trop vite, donc je pense que c'est une des raisons fondamentales. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Alors, mais par contre, il y a une vraie raison objective. En fait, ce dont on a peur, et c'est peut-être ça qui est la question à laquelle il faut vraiment répondre, est-ce que cette hausse de taux qui se profile ne va pas casser le rythme économique? Et c'est ça qui peut remettre en face, que vous disiez tout à l'heure, le problème entre la vie des actions d'un côté et la vie des obligations de l'autre. Et je crois qu'on est en plein cœur de cette problématique. Alors moi, je suis assez confiant maintenant. Pourquoi? On est déjà rentré depuis 15 jours dans la publication des résultats des entreprises. Et je crois que l'entreprise est là pour nous donner le « là ». en matière de croissance économique. Et je pense que les croissances sont quand même attendues assez bien. Alors, il y a des accidents. Et on a vu des... Sodexo était à moins 10, Nokia était à plus 14 avant cette crise. On voit bien qu'il y a des divergences. Mais le fondamental est quand même plutôt favorable, ce qui fait que cette crainte sur la croissance économique et sur la croissance des entreprises, je crois qu'elle va être dissipée. Maintenant, on a une alerte qui vient de nous être donnée aujourd'hui, qui est de dire, attention, soit la croissance est là, et on peut accepter la hausse des taux parce qu'elle va être gommée par cette anticipation de croissance. Si la croissance se mettait à ralentir, alors attention.
Qu'est-ce qui va se passer, Jean-Michel Six? Vous êtes chef économiste pour l'Europe de S&P Global Ratings, l'agence de notation. Est-ce qu'on est entré dans un nouveau cycle économique 2018, l'année de remontée des taux, de désengagement des banques centrales? Qu'est-ce qui va se passer alors qu'une... Une forme d'addiction, quelque part, à l'argent gratuit s'était forgée avec des taux d'intérêt qui n'ont cessé de baisser depuis des décennies. Est-ce qu'il y a un risque? Comment les banquiers centraux vont aller épouser le mouvement, accompagner le mouvement, freiner peut-être aussi?
Alors, sur le plan de la Réserve fédérale, déjà, on n'est pas totalement sûr, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un nouveau président. Il y a également un certain nombre de gens avec lui qui vont être nommés, qu'on connaît pas encore et qui peuvent évidemment avoir des opinions un peu différentes de leurs prédécesseurs. Mais surtout, fondamentalement, je fais écho à ce qui vient d'être dit sur la reprise de la bourse. En réalité, le marché des actions, donc, hein. Les mesures qui ont été prises et annoncées par Trump, et en particulier tout ce qui est le rapatriement des bénéfices des entreprises. Ça va se traduire. Il y a déjà eu des cas comme ça en 2003 avec Bush. Ça va se traduire mécaniquement par une augmentation des dividendes et une augmentation des share buybacks. C'est-à-dire que les entreprises utilisent l'essentiel de ce qu'ils ramènent, non pas pour investir dans l'économie réelle, mais pour augmenter la valeur de leurs titres sur les marchés. Donc, par rapport à une économie qui est quand même, encore une fois, je répète, à plein pot, on voit pas très bien comment elle peut, l'économie réelle, comment elle peut vraiment accélérer de façon soutenable beaucoup plus. Mais par contre, pour tous ces phénomènes, la bourse peut repartir à la hausse de façon pratiquement miraculeuse, entre guillemets. D'accord. C'est-à-dire, on se dit, oh, regardez, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est pas extraordinaire du tout. C'est qu'ils sont complètement dopés à un certain nombre de mesures fiscales, en particulier de court terme, qui vont soutenir. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut souhaiter que cette correction tienne, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on reparte pas immédiatement vers de nouvelles cimes qui ne seraient pas réalistes.
Qui dure combien de temps?
Qui nous ramène à des taux, à des niveaux peut-être un peu plus bas encore que ce qu'on connaît ce matin, peut-être pas ce soir.
Combien? Alors, je sais pas, est-ce que là on est à 24 000 sur le Dow Jones?
Je pense qu'une correction à moins de 10%, c'est pas forcément très, très, pas beaucoup. Bon. Encore une fois, les anticipations de certains investisseurs qui pensent que ça va repartir comme en 14, d'ores et déjà, grâce à ces mesures fiscales, c'est de nouveau une déconnexion avec ce qui se passe dans l'économie réelle. Et cette déconnexion entre les marchés et l'économie réelle est toujours, à un moment donné, très néfaste.
Philippe Thiby, Pergamon Campus.
Je crois que pour cette année, il y a effectivement les risques financiers dont on vient de parler, les taux d'intérêt, productivité, etc., etc. Mais je crois qu'il y a aussi une chose que les marchés ne savent pas apprécier en général, c'est les tensions géopolitiques. Je pense qu'elles montent. Je pense que les tensions, pas seulement parce que Donald Trump est au pouvoir, donc lui, il a ses impulsions et ses instincts qui sont bien connus, mais je crois que la tension entre la Chine et les États-Unis, c'est une donnée qui est là depuis un certain temps, mais qui devient plus forte parce que la Chine s'affirme. Là, le déficit commercial américain avec la Chine a atteint, il est à 375 milliards de dollars, donc c'est au plus haut. C'est un plus haut historique. Le déficit commercial des États-Unis est également extrêmement, extrêmement élevé. On a aussi l'Union européenne qui veut s'affirmer, je pense à bon droit, qui est la plus grande région économique du monde, donc qui veut parler d'égal à égal avec les États-Unis et la Chine. Et donc je pense que ceci crée des tensions qui d'ailleurs se manifestent sur le marché d'échange. C'est-à-dire que quand on regarde, on a vu à Davos les déclarations du secrétaire d'État au Trésor qui souhaitait un dollar faible. Donc, il souhaitait la guerre économique. Hein.
C'est ce que ça veut dire.
La soupape de sécurité ou le lieu où se voient les tensions commerciales, c'est le marché d'échange. Et donc, je pense qu'il est possible qu'il y ait une guerre des monnaies. Il est possible qu'il y ait des tensions qui soient très importantes de ce côté-là.
Jean-Noël Vieille, HPC. Oui.
j'aurais une vision un peu différente à la fois de Philippe et Jean-Michel, donc je vais répondre sur deux petits points rapidement. Sur les tensions politiques, j'ai quand même l'impression qu'elles sont un peu plus affaiblies. Et quand vous voyez, c'est assez drôle, les seules élections qu'on aura en Europe, c'est en Italie, en mars, on sait que c'est très compliqué. Le seul marché qui est positif aujourd'hui, après la crise, c'est l'Italie avec plus de 2,5. C'est un peu étrange. Et pour répondre à la question de Jean-Michel aussi, la question que vous avez posée à Jean-Michel sur est-ce qu'on va encore baisser, je serai un peu plus nuancé parce que moi je disais en début d'année, on va avoir un premier semestre plutôt bon parce que tous les signaux sont verts. Par contre, à la deuxième partie de l'année, quand on aura eu les hausses des taux, on pourra se poser effectivement, à mon avis, les bonnes questions qui sont posées aujourd'hui, mais je trouve qu'elles sont trop tôt. Alors on sait que le marché est un peu dans l'anticipation. Moi, je pense que ça serait pas totalement... Pour moi, c'est pas exclu d'avoir en gros un marché qui fait plus 10 au premier semestre. Et le deuxième semestre, je ne peux pas vous le qualifier aujourd'hui parce que je ne sais pas.
Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université de Assas, spécialiste de politique américaine.
Je crois qu'on a raison de regarder sur l'extérieur, effectivement. Encore une fois, tout ce qui se passe avec Donald Trump, il nous l'a dit pendant la campagne. Or, pendant la campagne, il nous a parlé aussi de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, c'est la guerre économique qui est dans les têtes. Et pour l'instant, elle n'est pas déclenchée. Alors, on a vu qu'il y a quand même des signes d'impatience de la part de Donald Trump, notamment pendant son voyage en Asie. C'était quand même pas rien. Pas au début, où ça avait l'air de bien se passer, mais une fois qu'il a passé la Chine, il a commencé effectivement à reparler de cette fameuse guerre économique et on a eu l'impression à ce moment-là qu'elle pouvait arriver assez vite. Et juste avant Davos, il nous a encore annoncé que ça pouvait arriver en mettant d'ailleurs des barrières douanières assez fortes sur deux produits, hein, les machines à laver pour faire simple et les panneaux solaires, pas rien, à 45%. Donc à ce moment-là, les Chinois se sont dit, mais mince, ils pourraient le faire. Et effectivement, je crois que la crainte est quand même dans les têtes. C'est pas rien, je crois, sur les marchés. Et alors là, c'est à vous d'en parler plus que moi. Mais je crois que quand cette crainte se met dans les têtes, ça peut engendrer des comportements. Vous parliez tout à l'heure de comportements depuis 1929 qui sont plus de l'émotionnel qu'autre chose. Je crois que la politique est faite aussi de ces comportements émotionnels et ça rejoint là l'économie très clairement. Donc on est peut-être aussi en face de quelque chose de ce genre-là actuellement.
Philippe,
la guerre économique, c'est violent, c'est-à-dire qu'effectivement, mettre des droits de douane à grande échelle, on a vu ce que ça donne en 29, et c'est compliqué à faire. C'est pas exclu, parce que il y a une mécanique aussi des émotions chez les dirigeants, là on a deux dirigeants qui sont très affirmés, on sait pas ce que ça peut donner. Mais je crois que, je veux répéter ce que je disais tout à l'heure, la façon silencieuse de se battre, c'est d'évaluer sa monnaie ou de faire en sorte que sa monnaie baisse. Et le dollar a baissé de 15% entre 10 et 15% depuis le début de l'année. Depuis l'élection de Donald Trump, c'est considérable et ça n'est pas un hasard, à mon avis, s'il y a une coïncidence entre la baisse du dollar et l'élection de ce président.
Jean-Noël Vieille, juste un mot, ce que nous disait tout à l'heure Grégory Volokhin de Mescart Financial Services depuis New York. Il disait, oui, c'est un trou d'air salutaire aussi. Ça va permettre de dénouer un certain nombre de Paris, de faire ressortir des baleines qui sont cachées. Et d'ailleurs, BlackRock, qui est le premier gestionnaire d'actifs, mettait l'accent tout à l'heure sur la nécessité pour le régulateur boursier, de faire le ménage quelque part entre des produits techniques très risqués, hein. Par exemple, des produits indexés sur la volatilité, accessibles par monsieur, madame, tout le monde, pas forcément bien avertis, hein, pas toujours bien informés, et puis des produits plus classiques. Est-ce qu'il faut faire le tri pour éviter, quelque part, un retour à des pratiques style subprime? Est-ce qu'on a tiré vraiment toutes les leçons de la crise, quelque part, de la crise d'il y a presque 10 ans maintenant, 10 ans?
Comme vous l'avez dit, quand est arrivée la crise des subprimes en 2007-2008, peu de gens savaient très bien ce qu'il y avait à l'intérieur. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de produits qui peuvent exister comme ça. Il y a aussi d'autres risques. On parle beaucoup des risques du crédit, notamment chez les étudiants aux États-Unis. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un certain nombre de bulles qui peuvent éclater. C'en est une. On peut aussi remettre en cause ce que disait aussi l'intervenant tout à l'heure, le trading à haute fréquence, puisque c'est aussi ça qui fait précipiter les chutes, qui donne beaucoup plus de volatilité ou des hausses d'ailleurs à la fin des marchés. Donc oui, on a besoin effectivement d'une régulation beaucoup plus forte.
Faire le ménage. Hein.
Et c'est vrai, quand on voit que là, on nous ennuie tous, nous, en ce moment, avec MiFID, qui est vraiment quelque chose qui n'a strictement, en Europe, qui n'a pas grand chose à voir avec ça. Moi, bien sûr, mais est-ce que...
Ça veut dire quoi? Ce qui s'est passé il y a 10 ans, finalement, on l'a vite oublié?
Je pense qu'on l'a vite oublié, oui. Oui, de toute façon, la finance, c'est ça. Hein.
Jean-Michel Six, on peut faire le rapport, la comparaison?
On peut faire la comparaison dans la mesure où, effectivement, cette euphorie boursière tout à fait extraordinaire qu'on a eue depuis un an et demi, cache effectivement une réalité économique beaucoup plus sombre. Il a été rappelé tout à l'heure qu'il y a quand même une part de travail précaire qui a énormément accru, qui s'est accru énormément. Les inégalités se sont beaucoup développées. C'est pas que aux États-Unis, mais enfin là, on parle des États-Unis. Donc, effectivement, derrière cette euphorie, il y a une réalité qui est très différente, avec un endettement des ménages qui est très élevé. Donc, encore une fois, ça peut continuer à cacher pendant un certain temps cette réalité, mais il y aura un moment où il y aura une réconciliation. Tout ça, juste. On a appris avant 2008 que ça arrive toujours.
Allez, le mot de la fin, Philippe Tibi, oui, trou d'air salutaire justement pour mettre fin à certaines pratiques. Enfin, j'allais dire.
Non, mais je pense pas qu'il y ait de pratique. Les marchés, il y a toujours des choses qu'on ne prévoit pas, et c'est comme ça. Mais si vous voulez, puisque le sujet c'était est-ce qu'on est en 2007, je pense qu'il y a des points de ressemblance sur faible volatilité, peut-être produits exotiques, etc. Mais le vrai problème en 2007, c'est la fragilité des banques. La crise, la grande récession, elle est due à des banques qui ont explosé ou qui ont failli exploser. Je pense qu'aujourd'hui, les banques sont beaucoup mieux surveillées.
Oui, ça c'est vrai.
Bon. Alors, on continue d'en reparler, évidemment, sur BFM Business, qui vous raconte minute par minute ce qui se passe sur les marchés, la clôture de New York, tous les soirs, avec David Jacot, avec Stéphanie Colo, dans After Business, à 22h, heure de Paris. Et puis, évidemment, un débriefing complet, dès le réveil, Stéphane Soumy, toute son équipe, Antoine Larigaudry. Merci à tous. Merci, Jean-Michel Sik, chef économiste pour l'Europe de l'agence de notation S&P Global Rating. Jean-Éric Brana, auteur de Trumpland, Portrait d'une Amérique divisée. Il connaît par cœur la politique américaine. Philippe Tibi, enseignant polytechnique à la tête de son école pour diriger entreprise Pergamon Campus. Bon retour dans la neige, mon cher Jean-Noël Vieille, stratégiste marché chez HPC. On revient vite avec les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.